Des voix, des histoires, c'est la base. La base, Bruxelles nous appartient.
Ah bien, je m'appelle Père Hugo Van Geel. Ah bien, ici dans la province, je suis depuis 98 ici, parce qu'avant j'étais en Afrique, 28 ans. Et j'ai accepté cette paroisse ici parce qu'il y a une grande communauté des Africains, Congolais, Rwandais, Burundais et tout ça. Et comme je connais leur langue, c'est pour ça que j'avais accepté cette paroisse ici. Et bien, quel est le rôle ici? Bien, on est un peu coordinateur, disons, des activités qui se passent ordinairement, quotidiennement, dans une paroisse. Hein, ça veut dire que chaque jour, il y a la prière, il y a des rencontres, des réunions, mais il y a aussi, comme j'étais dans le mouvement de Cardenne, quand j'étais petit, naturellement, on nous a appris qu'il faut, avant de faire quelque chose, il faut voir, après juger et après agir. Et de là, je ne sais pas si vous connaissez ce quartier ici. Au temps-là, c'était un quartier très populaire, mais maintenant, c'est devenu un quartier habité ou bien, disons, de passage. Des gens qui viennent travailler ici dans l'administration et le soir, ils partent. Les habitants ici, ce sont de différents pays, de différentes cultures. Et on essaye de vivre un peu comme des frères et des sœurs, que ce n'est pas toujours facile. Mais ça, c'est un peu le rôle. On dit que voilà, vous êtes le curé, le responsable. Bien, le responsable, c'est le coordinateur qui observe et qui regarde et qui stimule un peu les activités et tout ça. Vous avez entendu et vu à la télé le camp Maximilien, là, où il y avait tant de tentes, qu'il y avait plus que 1000 personnes qui logeaient là, dehors, sous des tentes, d'accord, et tout ça. Mais ce n'était pas agréable, surtout pour des parents avec des enfants. Parce que la pluie, debout, et il y avait trop de monde et tout ça. Mais quand la ville avait décidé de chasser les gens-là, Caritas, c'est un organisme qui s'occupe un peu des réfugiés, mais aussi quand il y a des guerres ou je ne sais pas quoi. Ils sont venus me demander, voilà, tous doivent quitter là-bas. Et il y a surtout des parents avec des petits-enfants qui ne puissent quand même pas dormir dehors. Et quand vous êtes tout près d'office des étrangers, est-ce que ce n'est pas possible que vous puissiez loger uniquement de 8 heures le soir jusque le lendemain matin, 9 heures, ces familles avec des enfants, qu'ils ne dorment pas dehors. Bien, on a proposé ça à la communauté, et comme je disais que notre communauté, ce sont surtout des Africains qui sont aussi réfugiés, ils ont tout de suite accepté. Et le 1er septembre, on a commencé d'accueillir des parents avec des enfants dans l'église. Mais ce n'était pas uniquement des Syriens, c'était mélangé. Il y avait des Syriens, il y avait des Pakistanais, il y avait des Irakiens, aussi des Éthiopies, de Somalie et tout ça. C'était mélangé. Et il dormait ici, il passait la nuit, disons ici, dans cette église. Et nous avons continué jusqu'à la fête de Noël. Là, nous avons dû arrêter parce que, naturellement, on devait préparer l'église pour les fêtes et tout ça, etc. Mais l'aspect a changé quand on a ouvert le VTC 3, qu'on a accepté que les gens puissent aller loger là-bas. On a augmenté un peu la capacité et de là, ils sont allés, des gens sont accueillis là-bas. Et ils ont dit que nous préférons priorité les parents avec des enfants. Et quand il y a encore des places, des individus. De là, ici, les parents avec des enfants ont quitté et nous avons accueilli des individus. Des personnes, c'était surtout des hommes, mais il y avait aussi des femmes, mais c'était encore toujours mélangé. Et ça a duré, juste que je disais, juste avant la fête de Noël. Quand nous avons eu les gens qui dormaient dans l'église de 8 heures le soir jusqu'à le matin à 9 heures, moi je ne comprends pas l'arabe, mais il y en avait qui parlaient l'anglais ou bien le français, il en a parlé de leur difficulté. Par exemple, je vais donner un exemple. Moi j'étais un peu étonné, tout le monde avait son GSM. Et ils cherchaient dans l'église les prises pour charger leur GSM. Mais dans l'église, on a 3 ou 4 prises, pas plus. De là, on a dû acheter des multi-prises pour les donner l'occasion. Mais j'ai posé une fois la question, pourquoi tout le monde a son GSM, même pour le reste qu'il n'avait rien, même pas un sac, rien de tout qui arrivait le soir rien qu'avec son GSM. Et là, ils ont dit que, voilà, nous avons notre musique de chaque culture sur les GSM, mais nous avons la possibilité d'entrer en contact avec notre famille. Nous sommes frappés en route. On nous a volé nos sacs et tant de choses. Ils ont refusé qu'on pouvait chercher à manger et tout ça. On nous a mis même en prison et tout. Mais les GSM, là, on était en bloc pour défendre. Là, on ne pouvait pas toucher. Et là, un Afghan m'a raconté ça. Pourquoi? Et on tient tellement à cette GSM, parce qu'il disait, j'étais marié, j'ai un petit bébé, on habitait encore chez nos parents en Afghanistan. Mais un jour, on venait frapper à la porte, papa est allé ouvrir la porte, et c'était un taliban, il me voyait, il disait, « Ah, mais toi, tu es encore jeune, tu peux te battre, allez !» On te conduit au camp dans les montagnes parce qu'il faut te battre avec nous pour la justice et tout ça, etc. Bien, on le conduit dans les montagnes, mais après 4 mois, il a eu la possibilité de fuir avec 3 autres personnes de ce camp-là, de préparation, d'exercice. Ils ont marché 4 mois pour arriver ici en Belgique. Mais entre-temps, il disait que je veux quand même, quand ils étaient en route pour venir ici, je veux téléphoner quand même à ma famille pour demander comment ça passe maintenant là-bas et tout ça. Il a téléphoné son père et son père, il a dit que nous et maman, nous nous portons bien, mais je dois t'annoncer une très mauvaise nouvelle. Ta femme avec le petit bébé était encore dans la chambre à coucher et ils nous ont bombardé notre maison et ta femme avec le petit bébé sont morts par ce bombardement. Il dit que c'est là que nous tenons à ce GSM là. Mais ce que m'a étonné de tous ces gens, pas uniquement de lui, parce qu'il me demandait, je veux recommencer ma vie ici en Belgique. Si vous avez la possibilité, tu peux me chercher une femme belge, que je puisse recommencer. Tout ce qu'il avait vécu, perdu sa femme, en route et tout ça, mais cette force-là, cette foi que la vie ne termine pas, il faut continuer. Ça m'a frappé. Pas uniquement avec lui, hein, aussi avec un docteur syrien et tout ça, etc. C'était vraiment... mais j'étais tellement reconnaissante. Oh, combien de bis que j'ai eu de ces gens-là quand le matin ils sortaient pour remercier tout ça, etc. Oui.
Venez-vous en aide aux étrangers, genre, est-ce que vous leur donnez des vêtements à manger, tout ça?
Oui. Tu n'es pas passé par l'église, hein, mais ça, nous continuons encore maintenant. Hein, qu'à midi, hein, je pense que l'église sera maintenant ouverte, les gens puissent venir prendre des vêtements. Et c'est là qu'en 1998, quand moi je suis venu, l'hiver, il y avait de neige, il y avait une maman avec deux petits bébés qui restaient dehors, et que nous avons dit, mais c'est quand même pas possible une église comme ça, qu'on peut chauffer, pourquoi pas la laisser entrer, hein, dans cette église, se reposer, chauffer, tout ça. C'est pour ça qu'on a ouvert l'église, hein, que les gens qui devaient quitter l'office des étrangers à midi, parce que le personnel allait manger, bien, ils sont venus s'habiliter ici pendant l'hiver, chauffer l'église, et on bavardait un peu, et tout ça, etc. Et il y avait un papa avec trois enfants qui était en train de repartir, de distribuer un morceau de pain, hein, marocain à ses trois enfants. Et une jeune fille de 6-7 ans, je pense, hein, elle était à la table, elle allait regarder à la table de ce papa-là, et ce papa, l'unique pain qu'il avait, hein, marocain, avec lui et ses trois enfants, il a donné un petit morceau à cette fille-là. Et cette fille-là, triomphalement, elle courait vers sa maman en montrant, regarde une fois ce que nous avons reçu. Et de là, nous disons, nous avons un boulanger ici et un peu plus loin là-bas. C'était, chaque soir ici, c'était plein de pain pour les pigeons, pour les oiseaux et tout ça, qu'ils ne pouvaient plus vendre le lendemain. Nous avons demandé, mais le pain que le soir que vous n'avez pas vendu, garde-nous ça pour le lendemain matin. Au lieu de donner aux pigeons et aux oiseaux, on veut le donner aux réfugiés. Et ils étaient tout de suite d'accord. Le matin, on allait chercher le pain, on le mettait sur le chauffage. Ça devait un peu chaud et croquant. Et à midi, on donnait café, thé et un morceau de pain. Un bon temps après, il y avait quelqu'un qui me frappait sur l'épaule. Je regardais et il me montrait ses bottines. Il était foutu. Quand il marchait, ça s'ouvrait comme ça. Mais je ne l'ai pas compris, mais il le montrait. De là, je savais, il veut probablement, si nous n'avons pas des bottines ou quoi, pour lui donner. Et de là, on a dit, mais nous tous, nous avons des familles. Que les jeunes... un an, ils portent quelque chose, mais après un an, c'est hors mode, ils les jettent, ils veulent un autre style. Que nous demandons à nos familles de nous donner des vêtements, et jusque maintenant, nous continuons à distribuer des vêtements. Les réfugiés qui sortent maintenant, ils viennent voir ici des vêtements, pas uniquement maintenant les réfugiés, parce qu'on a ouvert aussi pour les clochards qui dort dehors, ceux qui sont sans domicile fixe. Et lundi, j'ai reçu un téléphone pour me demander, parce que tous les centres se ferment, VTC3 se ferme, ça veut dire que ces gens viennent de nouveau dans la rue. Alors, j'ai eu un téléphone d'un organisme si on ne pouvait pas accueillir des parents avec des enfants, 70 personnes, des familles avec une cinquantaine des enfants. Mais là, c'est pour un mois, deux mois. Et ça, c'est impossible pour nous parce qu'on a besoin de l'Église pour nos prières et tout ça. Hein. Mais ils ont demandé, et on a dit, on va voir, on va chercher un autre moyen ou quoi.
Ma troisième question, est-ce qu'il y a des associations chrétiennes islamiques qui vous viennent en aide, donc qui viennent vous aider à la paroisse quoi?
Dorine, hein, c'est une musulmane hein, qui venait chaque soir. Hein, avec son mari, elle amenait du pain, plusieurs fois aussi hein, de nourriture chaude, préparée et tout ça, etc. Et c'est elle qui m'a téléphoné lundi matin hein, si nous ne pouvions pas à accueillir cette famille. Mais pas uniquement elle, hein, parce que je le connais très bien. Elle disait aux autres, voilà, ça c'est mon père, mon mari, mais elle rigolait. Hein. Non. Mais beaucoup des autres qui venaient donner à manger. Hein. Une fois qu'ils ont vu qu'on logeait des gens ici, on a... de partout des gens qui venaient avec de repas chauds, de boissons et tout ça, etc. Et là, il y avait toutes sortes hein, aussi de beaucoup de parce que la plateforme citoyenne, hein, là, il y avait beaucoup de musulmans et musulmanes dedans. Hein, c'était mélangé. On ne regarde pas hein, qui êtes-vous. Si vous voulez aider quelqu'un, on l'aide de tout cœur, sans demander « Ah, est-ce que tu es ici ou cela ?» Il faut être ouvert pour tout le monde.
Hein. Ma dernière question, est-ce qu'un réfugié syrien a déjà assisté à la messe ou quelque chose comme ça dans l'établissement ?
Là, je dois dire non parce que... ils étaient ici de 8h à 9h le matin et après ils devaient se rendre à l'office des étrangers. Hein? Mais peut-être ça n'a rien à voir avec le réfugié, mais dans le temps-là, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait la prostituée ici, hein, dans l'avenue Albert II, ceux qui faisaient le trottoir. Hein? Les prostituées. Et là aussi, on allait les visiter hein, deux fois par mois, la nuit, rien que pour bavarder un peu, pour leur donner une tasse de café. Et ils aimaient bien à fumer, hein, qu'on leur donne une cigarette et tout ça. Et là, moi, j'en ai qui venaient le dimanche à la messe, qui venaient, soit qu'ils étaient prostituées, hein, mais qui venaient à la messe le dimanche. Mais ils demandaient pas nous saluer, hein, pas faire comme tu nous connais. Hein, tu fais comme pour tout le monde, hein, on vient à la messe et c'est tout. Mais là, j'en ai eu hein, qui venaient à la messe. Même j'ai hein, d'une fille africaine hein, qui était poussée par son mari belge hein, dans la prostitution. Parce que lui, il aimait de fumer les drogues. Hein? Et il n'avait pas l'argent. C'est pour ça que sa femme, une jeune africaine, hein, devait gagner d'argent pour lui. Mais comment ou quoi, elle a attrapé hein, la grossesse. Et là, elle a demandé, quand l'enfant est né, est-ce que vous voulez baptiser mon enfant? Et moi, je dis, si toi tu le veux, il n'y a aucun problème. Et j'ai baptisé l'enfant. Nous étions à trois, moi, elle et la marraine. Et on a baptisé l'enfant. Mais elle venait aussi régulièrement à la messe.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu aux questions. Donc, moi, je m'appelle Myriam. Je suis née ici à Anderlecht, j'ai 20 ans.
Voilà. Moi, je m'appelle Fikria, j'ai 18 ans et je suis marocaine.
Moi, je m'appelle Stéphie Botofé, j'ai 22 ans, je suis congolaise.
Moi, c'est Ikram, j'ai 20 ans et je suis née à Berkine-Sainte-Agathe.
Moi, je m'appelle Laetitia Nzoubou, je suis congolaise, donc je suis née au Congo. Donc, j'ai Bétalinga à la fois.
La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be.